Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Les voyants de l'épidémie virent tous au rouge. Paris, Lyon et Lille sont quasiment au niveau de Marseille avec des taux d'incidence autour de 250 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil d'alerte maximal. Virginie Riva va nous dire quelle est la situation dans les universités où les clusters, les foyers épidémiques se multiplient sans que le gouvernement n'envisage pour l'instant leur fermeture. Au sommaire également, retour sur le premier débat Trump-Biden de la nuit passée, invective et pugilat. Au milieu du chaos, le vieux démocrate a tenu le choc. On doit nous détailleront les dernières concessions de Veolia, toujours désireux d'avaler son concurrent Suez, alors que le vendeur Engie a réuni aujourd'hui son conseil d'administration. Et puis pour le cinéma, nous verrons que la fréquentation des salles en France pâtit toujours de l'absence de blockbusters, de grosses sorties américaines. Les distributeurs ne cessent de retarder leur calendrier. Dans 10 minutes, notre invitée, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, qui publie « Si J. la mer comme l'amertume », guérir du ressentiment, ressentiment qui gagne nos sociétés, et on va sûrement l'illustrer dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Beaucoup de bruit pour rien à Paris et région parisienne. Un très gros bruit comme une forte explosion entendue peu avant midi aux quatre coins de la capitale et même en banlieue jusqu'à Versailles, nous dit-on. Les autorités ont vite fait savoir qu'il s'agissait d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. Nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas d'explosion, vient de tweeter la préfecture de police, appelant la population à ne pas encombrer les lignes de secours. Pour l'instant, côté du ministère de la Défense, pas d'autres détails sur l'avion et la nature de ce qui s'est passé pour qu'un tel franchissement de mur du son puisse être entendu sur une zone aussi vaste et auprès de millions de personnes. Olivier Véran reprendra la parole demain après-midi. Nouvelle conférence de presse au ministère de la Santé et les derniers chiffres de l'épidémie ne présagent rien de bon. Victor Delande, Paris, Lyon et Lille sont quasiment au niveau de Marseille.
Oui, je rappelle que Marseille est en zone d'alerte maximale, le premier degré avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. Pour être classé dans cette catégorie, un territoire doit remplir trois conditions. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, doit être supérieur à 250. Il est actuellement de 252 à Paris. Le taux d'incidence ensuite chez les plus de 65 ans doit être supérieur à 100. Il est aujourd'hui de 132 dans la capitale. Enfin, troisième indicateur, plus de 30% des lits de réanimation doivent être occupés par des patients Covid. On est à 32% à Paris. Donc sans lire dans le Mar de Café, oui, Paris devrait bien basculer dès demain en zone d'alerte maximale. À Lyon et à Lille, c'est plus incertain. À Lille, le taux d'incidence du virus est de 306 cas pour 100 000 habitants et de 159 chez les plus de 65 ans. À Lyon, ce taux d'incidence est de 256 au sein de la population générale et de 155 chez les plus de 65 ans. Mais dans ces deux villes, le taux d'occupation des lits de réanimation est en dessous des 30%. Et je rajoute que deux autres villes inquiètent particulièrement les autorités de santé, Toulouse et Grenoble.
Victor Delande, inquiétude particulière aussi. Un tiers des clusters, des foyers épidémiques en cours d'investigation ont été détectés dans le milieu éducatif et pour l'essentiel dans les universités, ce qui ne veut pas dire forcément que les étudiants se sont contaminés en allant en cours. La ministre Frédérique Vidal disait d'ailleurs ce matin sur Europe 1 qu'elle n'envisageait pas de refermer les universités, Virginie Riva.
Oui, à ce stade, ce n'est absolument pas le scénario. Seulement 25 établissements sont fermés. L'idée aujourd'hui, c'est d'identifier rapidement les clusters. Mais comme les contaminations ont lieu dans les soirées privées, toute la difficulté, c'est de savoir définir un cluster. Car ces contaminations sont souvent très disséminées. C'est ce qu'expliquait ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.
Ce que nous faisons, c'est que nous sommes très attentifs à la définition d'un cluster. C'est une définition qui est très particulière. Vous pouvez avoir un établissement où vous avez 15 étudiants qui présentent des symptômes et vous vous rendez compte qu'ils sont dans 4 promotions différentes, qui ne se croisent jamais. Simplement, ce sont des amis.
Alors, s'il y a identification d'un cluster, le président d'université réunit la cellule de crise et prend la décision de fermeture d'un site avec organisation des cours à distance. C'est le cas cette semaine à Angoulême, à la fac de sport, à Dijon, pour les premières années de psycho et les troisièmes années de médecine. Mais c'est plus simple, c'est vrai, de fermer une école qui a tous ses cours dans un seul bâtiment, une école ou une grande école d'ailleurs, que de fermer une fac. Hors cluster, pour prévenir et éviter trop de flux d'étudiants, la règle un peu partout, c'est de faire 50% des cours à distance et 50% de cours en présentiel. Mais tout dépend aussi du lieu. Pour les zones d'alerte maximale, comme à l'université d'Aix-Marseille, l'intégralité des cours en amphi sont proposés à distance. Seuls les étudiants sans ordinateur peuvent venir sur le site de leur fac. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, il y a des cours maintenus en amphi, seulement si l'amphi ne dépasse pas le seuil de 30% de sa capacité d'accueil.
Merci Virginie Riva, et je rappelle donc, nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran, demain au ministère, peut-être pour de nouvelles mesures de restriction. Engie réunit son conseil d'administration aujourd'hui pour étudier l'offre de Veolia sur ses titres Suez, une offre que Veolia vient d'améliorer. Le géant de l'eau et de l'environnement fait des concessions, Emmanuel Dutheil, mais sans renoncer au rachat de Suez.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Veolia veut mettre la main sur Suez. Et pour cela, en effet, Patrick, le groupe va sortir plus que prévu le carnet de chèques. Veolia propose maintenant près de 3,5 milliards d'euros. Et puis surtout, le groupe se dit enfin prêt à discuter avec son grand concurrent Suez. S'il réussit à mettre la main sur la participation détenue par Engie, ce qui semble de l'avis général assez probable aujourd'hui, eh bien Veolia est enfin d'accord pour discuter pendant 6 mois pour mettre sur pied ce nouveau géant du monde des déchets. Les équipes de Suez ont réuni ce matin leur conseil d'administration et eux, ils restent sur la même ligne que l'on pourrait résumer ainsi. Un mariage forcé débouche rarement sur le grand amour. On ne peut pas discuter sereinement avec un pistolet sur la tempe, ajoutons même dans l'entourage de la direction de Suez. Bref, Suez ne veut toujours pas de ce mariage. Mais à défaut d'amour, la raison l'emportera peut-être, veut-on se rassurer chez Veolia.
Emmanuel Dutheil qui met aussi de la philosophie dans ses papiers économiques, ça va plaire à notre invitée Cynthia Fleury. A tout de suite pour le journal, le premier débat de la présidentielle américaine qui vire au chaos.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Covid oblige, Donald Trump et Joe Biden ne se sont pas serré la main à la fin du débat, mais même sans virus, il est peu probable qu'ils auraient eu envie de le faire. Après 1h30 d'interruptions, de paroles incessantes, d'invectives et d'attaques personnelles, Trump a sciemment bordélisé le débat pour déstabiliser son adversaire ou le faire sortir de ses gonds. Biden a résisté en ne parlant du président qu'à la troisième personne, en ne le regardant presque jamais pour s'adresser aux Américains face caméra. Mais l'impression générale est d'avoir assisté à un pugilat indigne d'une grande démocratie. Consternation générale des commentateurs, Xavier Yvon.
Ah oui, il fallait voir les visages consternés sur le plateau de CNN une fois le débat terminé.
That was a hot mess. That was the worst debate.
Un foutoir, une honte, le pire que j'ai jamais vu. Une commentatrice renommée se lâche.
That was a shit show.
C'était un spectacle de merde. C'était horrible, écrit le Washington Post. On aurait presque voulu avoir des coupures pub pendant ce spectacle grotesque pour que quelqu'un aille jeter de l'eau froide sur le président. La plupart des médias blâment en effet Donald Trump pour ce débat chaotique. C'était sa tactique de constamment interrompre Joe Biden, explique le New York Times. Son attitude était celle de quelqu'un qui dégoupille une grenade et qui espère que l'explosion blessera plus sévèrement l'autre. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas fait grand-chose pour rassurer les électeurs indécis, conclut le journal. Et les médias américains, abasourdis, se demandent comment faire pour les prochains débats. Certains proposent carrément de couper les micros des candidats quand ce n'est pas leur tour de parler.
Xavier Yvon, le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Disney annonce 28 000 suppressions d'emplois aux États-Unis, principalement dans ses parcs d'attractions. Le Disneyland de Los Angeles est fermé depuis plus de 6 mois. Disneyland Paris, qui ne dépend pas du groupe, n'est pas concerné. Le cinéma a sorti aujourd'hui de Mon Cousin, porté par Vincent Lindon et François Damiens, et le documentaire de David Dufresne sur les violences policières. Mais toujours aucun blockbuster à l'affiche. La sortie de Wonder Woman a été repoussée au 25 décembre, ce qui fait que les cinémas français toujours à se remplir, Mathieu Charrier.
Oui, pourtant fin août, au moment de la sortie de Tenet, les salles françaises avaient vendu 2 millions de tickets en une semaine. Alors ça restait deux fois moins qu'avant la crise du Covid, mais les exploitants commençaient à y croire. Sauf que depuis, eh bien ça a été la douche froide, car une fois l'effet de curiosité passé, le nombre d'entrées hebdomadaires stagne de nouveau autour du million, un peu moins les mauvaises semaines, un peu plus les bonnes, mais ça reste trop peu pour que les salles survivent, explique Olivier Snanouch, directeur de la distribution Warner Bros. France. C'est lui qui a décidé de sortir Tenet fin août et de repousser Wonder Woman.
Qu'il y ait 1 million de personnes qui aillent au cinéma chaque semaine, ça prouve qu'il y a quand même une envie. Mais effectivement, c'est très insuffisant pour rentabiliser les salles. L'enjeu, c'est que les salles puissent survivre à cette crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer encore.
Et pour aider ces cinémas à survivre, la ministre de la Culture a annoncé la semaine dernière une aide spécifique de 34 millions d'euros. De son côté, la Fédération nationale des cinémas français assure que pour le moment, aucune salle n'a été obligée de baisser définitivement le rideau.
Mathieu Charrier, le temps. Anissa Dadi, du très beau temps, mais pas pour tout le monde.
Alors on commence par les plus chanceux, Patrick. Si on commence par les bonnes nouvelles sur toute la moitié sud du pays, sur la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace et même jusque sur le centre. Là, c'est une très belle journée qui vous attend, un après-midi très ensoleillé. Il va faire beau. Un conseil d'amis, profitez-en bien, prenez même des photos du soleil parce que ça ne va pas durer. Sur le quart nord-ouest, en revanche, des Pays de la Loire aux Ardennes en passant par la Bretagne, la Normandie, le Nord et la région parisienne, là le ciel est gris, avec d'ailleurs sur la Bretagne et le Cotentin des averses cet après-midi. Les températures, elles sont en hausse et de saison, avec 16 degrés à Brest, 18 à Cherbourg et Vannes, 19 à Lille et Belfort, 20 à Strasbourg et Paris, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Lyon, 23 à Toulouse et 25 à Nîmes pour la maximale.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.